Queer Me Out, c'est un jeudi sur deux sur Radio Syllab.
Bon, dans 9 minutes, nous passons en direct sur les ondes de la radio française.
Yeah.
On peut réécouter en replay après.
Oui, tu auras le podcast de l'émission qui sera posté dans la fin de semaine. Bon, moi je m'entends bien pour une fois, c'est chouette. Je pense qu'il faudra monter celui de Aurora. Vas-y, reparle Aurora.
Oui, pardon. J'ai vraiment parlé très pas fort. En vrai, ma vraie voix, elle est plutôt
voilà,
comme ça.
C'est ça là qui va nous intéresser. C'est la vraie voix qu'on veut. C'est ta vraie voix.
C'est ouais. Ça, on va t'inquiéter.
C'est la voix de radio. Je vais éviter d'intervenir quand je renifle ou quand je tousse.
S'il te plaît. S'il te plaît.
Par contre, quand t'es drôle, tu peux.
Comme il n'est que 18h30, on fait le test du début d'émission, comme d'hab. Comme ça, tu vois un peu le rythme et...
Salut à toi qui nous écoute.
Tu veux le test avec les sons?
Non, parce que sinon c'est chiant pour toi. Hein. Voilà. On est d'accord, c'est chiant pour toi.
Ah, okay. À ceci dit, non, si
tu peux, tu peux chanter le son. Alors, tu fais le thème, tu fais le
thème.
Ouais, sinon on joue le truc.
I'm coming.
Salut à toi qui nous écoutes sur Radio Syllab ou alors en podcast et sois bienvenue dans notre bande de potes queer. Je suis Mathieu, il est exactement 19h et ce soir autour de la table pour parler écoféminisme, Lauriane fait son retour. Salut Lauriane.
Salut Mathieu.
Dans notre première émission, tu nous disais vouloir inviter une autrice, illustratrice que tu aimes beaucoup et elle est avec nous. L'écoféminisme comme réponse aux multiples crises que notre monde connaît. Pas sûr que ça plaise à l'homme politique.
William Crozon, directeur de la campagne, Éminence Grise, le cerveau derrière tout ça. Enfin, le DIRCAB, enfin, directeur de cabinet. Si
attends, DIRCAB, je sais ce que c'est, pourquoi tu précises? Parce que je suis une femme, c'est ça?
Non.
C'est... Non, mais je suis comme toi, je fais de la politique, oui, j'ai du vocabulaire, femme, je fais des études.
Aucun problème.
Est-ce que c'est possible de s'entretenir avec vous 5 minutes dehors?
Ben ouais, j'allais faire ma tournée, tu peux m'accompagner si tu veux. Par contre, sans ton politicard, pardon.
Waouh! Alors ça, c'est frontal comme attaque, je suis désolé, je suis pas politicard. Hein. Ma première passion, c'est la politique, hello.
Ouais, super. Moi aussi, j'aime bien la politique, mais j'aime
non, moi,
pas
je l'adore.
Costard. Non, non, c'est eux qui nous ont coupé de la base. Merci.
Qui, eux,
je parle
ne
pas avec
pas
vous.
Dans
on y va
dans un sac.
Oui,
je suis désolé, mais c'est pas un costard, c'est un cardigan. Des pareils.
Je gère,
bonne
okay.
Avec des vieilles chaussures.
Voilà, Mado est avec nous aussi. Salut Mado.
Coucou Mathieu.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de la symbolique des violettes et des lavandes dans la culture queer. Et alors, le violet... C'est la couleur qui mettrait d'accord la manif pour tous avec ses pulls hideux.
Oh non, non, pas en rose. Mais en bleu. Ma chère papa même, moi je préfère le rose. Moi je dis en bleu. En rose, en bleu. Oh, voyez ce que vous avez fait.
Et enfin, il est avec nous pour nous parler de Les Hommes. Bonsoir Félix.
Bonsoir.
Visiblement, tu as voulu te mettre au bricolage et ça s'est pas passé comme tu voulais.
Je sais pas, le blond, lui, il a l'habitude, je sais pas. Tu sais, ses enfants, ils doivent avoir chacun leur caisse à outils et tout, restant bleu. Ça. Allez, pitounou, loulou, chacun sa caisse à outils. On y va, en sifflotant, clac, 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 boum, boum. Attends, toi, t'es là, tu regardes le meuble, il est posé, tu dis à ta femme, chérie, un tournevis. Y'a pas, alors un couteau pointu.
Et comme je le disais en présentant Lauriane, nous accueillons dans notre bande en invité Aurora. Bienvenue Aurora.
Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à moi-même.
Oui,
non, bonsoir à tous et à
Aurora, donc Aurore Chapon, mais ton nom d'usage c'est Aurora.
Hein. Absolument.
Vous êtes illustratrice, tu es illustratrice, autrice, designer graphique et tu expérimentes aussi la création sur tout type de support comme la tapisserie.
Exactement.
Bon, en gros, t'es une artiste.
Voilà.
Une artiste impliquée dans le milieu militant et associatif, nous en reparlerons. Tu nous présenteras le roman graphique Resisters que tu as coécrit avec Jeanne Burgard-Goutal et que tu as illustré aussi. Oui. Nous sommes le jeudi 2 février, il est 19h03 et à défaut de prendre le pouvoir, les queers prennent l'antenne. Vous écoutez Queer Me Out. Alors mes amis, avant toute chose, je voulais vous dire que je n'aime pas les micro-ondes. Essayer d'y faire chauffer un bol de soupe est complètement inutile. Bah si, le bol est chaud, enfin le contenant, hein, mais la soupe dans le contenant, non. Enfin, la partie de la soupe contre la paroi du bol est bouillante alors que le centre est froid. Moi je veux juste boire une soupe chaude, je ne cherche pas à vivre une expérience extrasensorielle. Bref, c'est mon droit et je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, juste d'entendre que je n'aime pas les micro-ondes. Et ne me lancez pas sur la double vasque, cette hérésie de salle de bain qui, pour moi, marque le moment où l'humanité a commencé sa déchéance. Ah bah si, si, avoir besoin de deux lavabos, vraiment, c'est ça le signe extérieur de notre réussite sociale ? La double vasque, c'est complètement con. Alors oui, je suis un petit peu énervé, parce que depuis 3 semaines, je suis mêlé, malgré moi, à mon corps défendant, à une polémique absurde, mais pourtant bien réelle. En effet, dans ma vraie vie, quand je n'anime pas cette émission, je suis metteur en scène et artiste drag pour une compagnie de spectacle. Au mois de novembre dernier, une bibliothécaire m'a contacté pour me demander si nous étions intéressés pour proposer des lectures, 30 minutes de lecture en janvier de contes à des enfants dans le cadre d'un grand événement sur plusieurs mois contre les discriminations. J'ai donc accepté et proposé de compléter cette lecture par un atelier maquillage comme nous l'avions déjà fait dans des boutiques où bien souvent, quand les enfants voient qu'on maquille leurs parents, elles nous demandent de leur faire une fleur ou de mettre des paillettes. Le 5 décembre, une émission de C8, chaîne du groupe Bolloré, propose un débat sur « Est-ce que c'est une bonne idée de faire des spectacles pour enfants avec des drag queens ?» Cette émission n'étant constituée que de micro-ondes, autant vous dire que ce débat n'a servi à rien. La drag queen qui devait jouer dans ce spectacle et l'organisatrice ont subi un harcèlement en ligne en bonne et due forme, amenant l'organisatrice à empêcher la drag de faire sa représentation. Donc là, on sent un peu cette odeur de gruyère mou qui cuit, recuit et re-recuit dans le micro-ondes, hein, jusqu'à être carbonisé. Tout ça pour ne pas dire que ça pue du cul. Parce qu'on sait qu'aux USA, ça fait un moment que les shows drag sont attaqués. Le 5 janvier, je rencontre la bibliothécaire pour qu'elle nous donne les livres de contes que nous allons choisir pour notre lecture. Et là, elle me dit « Alors, ne vous inquiétez pas, hein, la lecture est maintenue, malgré la polémique, si vous êtes toujours d'accord de la faire, bien sûr. » Wait, what? Elle m'explique qu'un journal réac breton a parlé de l'événement en publiant un article en décembre. Tiens, tiens. Alors soyez attentifs, car c'est une mécanique qui se met en place. 1. Un journal en ligne réac, écrit et lu par des micro-ondes, explique que nous venons pour jouer un spectacle qui s'appellerait « La vie en drague » et maquiller les enfants pour, je cite, « entamer leur transition ». 2. Les partis politiques, La Voix du Peuple et Reconquête lancent une pétition pour demander l'annulation de ce spectacle. 3. Les doubles vasques de France sont en ordre de marche et signent et partagent cette pétition, ajoutant des commentaires qui sentent la remontée des goûts, du coup, hein, sur la perversion de ce monde, la transidentité, l'hypersexualisation des enfants qu'on maquille en drag queen, etc., etc. 4. Les quelques élus de ces partis font pression sur le maire, ses adjoints et les bibliothécaires en envoyant à la presse locale des communiqués de presse. Ça y est, mes petits queers, vous avez là une polémique. Le même procédé a servi pour s'attaquer à des artistes drag de Toulouse quelques semaines après. Donc moi, j'ai passé 2 semaines à répéter en boucle que nous venions juste lire des contes et proposer du maquillage, comme au carnaval, aux enfants, à des journalistes qui voulaient tous savoir ma réaction. Monsieur Guiral, est-ce que vous avez une réaction ? Et inlassablement, je m'en tenais au fait. 30 minutes de lecture de contes et des paillettes. Alors que, juste entre nous, mes petits queers, vous la voulez, ma réaction ? Mais espèce de Tupperware en plastique chauffé au micro-ondes ! T'as le couvercle tellement fondu que tu sais même pas lire ! Où t'as vu qu'on allait jouer un spectacle, hein ? Où t'as vu qu'une lecture, ça rendait transgenre instantanément des gens, toi ? Il était une fois... Oh my god ! Tous ces enfants pètent des arcs-en-ciel en hurlant « Yes, queen !» D'où t'as vu qu'on allait maquiller des enfants en drag queen, espèce de champignon de bande entartrée ? C'est le petit bouchon au fond de l'évier sur lequel on crache quand on se brosse les dents. Se maquiller en drag, ça prend 3 heures. T'as vraiment cru qu'on allait prendre chaque gamin et lui faire du contouring pendant 3 heures ? Donc non seulement t'y connais absolument rien en drag, mais en fait, en enfant non plus ? Tu crois pas que j'ai autre chose à faire que de nettoyer tes éclaboussures de sauce tomate que t'as projeté partout sur mon travail parce que tu sais pas faire autrement, parce que c'est ta fonction première en fait de tout salir et de bien faire suer celle ou celui qui va devoir corriger tout ça ? Oui, la culture woke va détruire la France, c'est encore un coup des des Américains attaquent des drag queens ? Faisons pareil ! Alors, c'est du réchauffé ou c'est pas du réchauffé ? Donc non, on peut pas répondre à ça. Enfin, on peut, mais ma voix intérieure me dit que c'est pas très constructif. Et j'aimerais vous dire que ça m'a fait du bien de gueuler un bon coup, mais même pas. Même pas parce que ces gens sont dangereux. Même pas parce que les morts, les blessés et les traumatisés sont dans notre camp. Les artistes de drague sont ciblés et systématiquement attaqués depuis décembre et nous devons nous y préparer. Car derrière tout ça, il y a une idéologie profondément LGBT-phobe et sexiste avec une stratégie bien huilée. Ils ont des accès directs à la presse et aux médias. En tant que parti politique, donc, nous devons nous aussi prendre notre place pour ne pas laisser une poignée de marginaux réac entacher ce que nous faisons. À toutes celles et ceux qui me disent « Ah bah, au moins, ça vous a fait de la pub !» Ben, je vous le dis, oui, mais non. Je m'en serais bien passé, moi, de ces deux semaines d'angoisse à me demander à quel moment et par quel moyen, moi ou mes collègues, on va se prendre une attaque. Je me serais bien passé du service de sécurité de 25 personnes pour 30 minutes de lecture de compte. Tout ce que ça révèle, c'est qu'on ne fait plus que réagir à ces attaques. On n'est pas préparé. Donc on nous demande de réagir, comme un animal traqué qui se tapit dans un buisson. Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson, Éric Zemmour, Cyril Hanouna, Vincent Bolloré, vous êtes de dangereux micro-ondes. On a compris vos méthodes et on va continuer de les dévoiler. Fin mot de l'histoire. Bah, la lecture drague s'est très bien passée. Je répète, la lecture drague s'est très bien passée. Tout ça pour ça. Malgré 10 pauvres manifestants avec des pancartes « Protéger nos enfants », figurez-vous que la bibliothèque a accueilli 120 personnes, ce qui n'était jamais vu. On avait un peu l'impression de vivre un moment important et absurde, parce que ça n'aurait jamais dû avoir autant d'ampleur. Comme on n'a pas du tout le sens du drama avec Mado, qui était en drag king à mes côtés, on s'est regardé avant de démarrer notre lecture et je lui ai glissé « We are making history » pour se donner du courage, et on l'a fait. Et alors, vous n'allez pas me croire, bah, c'était juste une lecture de conte de 30 minutes avec des paillettes. Voilà. Les enfants et les parents étaient contents et sur 70 mômes, ben, aucun n'a fait son coming out trans.
Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Donc merci à la bibliothèque, aux équipes municipales, merci aux parents qui nous ont beaucoup écrit pour nous apporter leur soutien. Donc si vous vous demandez quoi faire, ben, faire acte de gentillesse en pareil moment, ça fait la différence et ça aide à se sentir moins seul. Mm-hmm. Merci à Frappe qui a assuré notre protection et aux petits B-Frenchies dont certains sont autour de cette table. Ne pas pleurer. Merci d'avoir été des doudous autour de nous pour nous rassurer. Oui. Ce fut une journée bizarre, mais de tout ça a émergé une jolie chose. Même si aucun enfant n'a fait son coming out. J'ai eu le plaisir de rencontrer une personne qui, justement, était en transition à plus de 50 ans. Cette personne était là pour le travail et m'a avoué, très émue, que j'étais la première personne dans son milieu professionnel auprès de qui elle se sentait en confiance de me révéler sa vraie identité. Comme quoi, la bienveillance. Je lui dédie le prochain morceau, qui s'appelle Gloria, du groupe The Trial of Cato, qui raconte l'histoire d'une jeune femme trans qui quitte les mines pour aller à Londres vivre sa vie comme elle l'entend. Sixteen and at the seam, well, there were headlamps, canary dreams. I was apprenticed to a charcoal art as I waited for my life to start. And they said black blood flowed through my veins, yet in the pit all I knew was pain. And those blasted chambers were choking me, and only glory could set me free. But then a woman I chanced to meet, and I felt the cold move beneath my feet. And in the mirror I did stare at Gloria with the short brown hair. She said, what's to come is way past overdue, and it's then I knew what I was born to do. And as she moved through the county fair, not a man in sight could help but stare. So she left them there, watching and waiting for the sound of a woman's voice. But the look in her eye gave them no choice. So she left them there, watching and waiting for the sound. Behind a miner's life, I'll say no prayers, I'll take no wife. I'll busk my way down to Camden Town, for it's there a queen can find her crown. And then one evening she comes around, we tear our way right through the town and throw the sherry wine and smoky haze. Oh, Gloria,
myself as best as I can, and never forget that I was born a man. And as she moved through the county fair, not a man in sight could help but stare. So she left them there, watching and waiting for the sound of a woman's voice. But the look in her eye gave them no choice, so she left them there, watching and waiting for the sound. Myself in Soho bars, in a world of ashtrays and old guitars, and there were those who said that it transgressed, and there were those who saw beyond the dress. Now I clad myself in finery, I sing my song over all to see, and all the people how they did stare at Gloria with the short brown. So I dress myself as best as I can, and never forget that I was born a man. And as she moved through the county fair, not a man in sight could help but stare. So she left them there, watching and waiting for the sound of a woman's voice. But the look in her eye gave them no choice, so she left them there, watching and waiting for the sound. So she left them there, watching and waiting for the sound of a woman's voice. But the look in her eye gave them no choice. So she left them there, watching and waiting for the sound.
C'était The Trial of Cato qui chantait Gloria. Vous êtes sur Radio Syllab, vous écoutez Queer Me Out. Il est 19h17 et notre invitée aujourd'hui, c'est Aurora, co-autrice et illustratrice du roman graphique Resisters. Alors, Resisters, en fait, c'est ce qu'on s'est dit au début, je ne savais pas trop comment le prononcer. Moi, je vais dire Resisters dessus, mais tu pourras nous dire. Paru aux éditions Tana. Donc, Aurora, nous allons faire ta connaissance grâce à Lauriane, qui est notre pote écoféministe de la bande. Mais moi, déjà, je voulais savoir un peu ton parcours, savoir un peu, parce qu'on peut te suivre sur Instagram, @aurorechapon. On voit qu'il y a différentes créations, on voit tes créations artistiques, que ce soit sur les tapisseries ou de la sérigraphie et tout ça. Je vois bien que c'est ton métier, du coup. Et donc, je voulais savoir un peu quelles études, comment tu en es arrivée à faire ça, en fait.
Alors, c'est mon métier, oui et non, c'est-à-dire dans quelle mesure on définit qu'un métier est un métier ? Est-ce que c'est quand c'est rémunérateur ?
Est-ce que tu
en vis ? Parce
que
tu vois, par exemple, mes tapisseries, je n'en vis pas du tout.
Enfin,
c'est-à-dire, alors, j'ai commencé à faire de la tapisserie parce que j'en avais marre d'être que sur écran. Moi, je suis une illustratrice, comme je vous le disais, en off, qui dessine sur une tablette graphique. Donc, le soir, quand j'avais terminé mon travail de la journée, que je me disais, bon, c'est quoi mes hobbies ? Du dessin. Donc, je reprenais ma tablette que je venais de...
Ah, oui.
Posé, j'étais genre, il y a un truc qui va pas. ça ne va pas. Donc je me suis dit, ok, je suis très créative. Depuis que je suis gamine, j'ai fabriqué des milliers de trucs, des paires, des Scooby-Doo, de la couture, de tout. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vite fait sous la main là qui peut me permettre de faire quelque chose qui a un retour à la sensorialité, qui n'est pas de l'écran, qui ne demande pas d'électricité, qui peut se faire avec des objets de récup comme de la laine chopée à Emmaüs par exemple. Et ben voilà, j'avais ce métier à tisser, donc je m'y suis remise. Et depuis, c'est l'amour fou, c'est l'hypnose.
Donc ça, c'est plus le hobby qui te permet de passer à autre chose, parce que ton vrai métier, du coup...
Ce qui me rémunère, ce qui me fait manger, ce qui remplit mon frigo, c'est d'être illustratrice, graphiste. Mais c'est vrai que ces temps-ci, c'est plutôt l'illustration qui c'est vers là que je me dirige, et c'est très bien.
Et t'as fait une école en particulier?
Oui, en fait, je me suis orientée très tôt dès le lycée, parce que j'ai toujours su que je ferais un métier artistique de toute façon. Donc j'ai fait un lycée art appliqué à Nantes. Ensuite, j'ai fait un BTS à Rennes, à Bricchini, qui est plus un BTS, ça s'appelle un DNMADE maintenant, en communication graphique multimédia. ce qui m'a un petit peu saoulée. Ça, moi, je voulais faire. Moi, j'adore le papier. Enfin, ouais. C'est paradoxal ce que je dis, parce qu'à la fois, je dessine sur tablette graphique, mais en même temps, j'aime que l'objet final soit un objet final de sensoriel. Enfin, voilà, un vrai objet.
Palpable. Quoi,
bah, palpable, merci. Et donc, après, j'ai enchaîné avec la deuxième année des Beaux-Arts de Angers. Pour le coup, voilà, je voulais une approche radicalement différente, partir plus sur de l'expérimentation plastique plutôt qu'apprendre à faire un petit logo pour... voilà. Et en fait, à l'École des Beaux-Arts d'Angers, je pensais qu'il y avait l'option communication, puisque les Écoles des Beaux-Arts de France sont organisées globalement sous l'égide de trois parcours, c'est-à-dire le parcours art, le parcours communication et le parcours design. Et en fait, c'est juste qu'ils avaient jadis à Angers, mais ils n'avaient pas actualisé leur site internet. Oups. Et bon, bref, au bout d'un an, j'ai fait... Non, mais c'était super. J'ai fait de la sérigraphie, de la vidéo, j'ai découvert plein de trucs, de la gravure. Enfin, je me suis grave éclatée. Mais c'était pas trop ça. Et même moi, quand je présentais mon travail, ils disaient « Non, c'était pas trop ça. » Moi, j'étais genre « bah, moi non plus. » Donc, j'ai fini à Rennes 2, ici même, par une licence pro. En conception graphique, multimédia et métier d'édition aussi.
Super. Donc, vraiment... Voilà. Une autrice de chez nous, une illustratrice de chez nous, c'est ça, de Rennes. Du coup, Lauriane, je te passe la main.
Oui, bah justement, je voulais parler un peu de ton travail. Tu travailles sur des projets qui sont assez engagés. Avant Resistors, tu avais illustré le livre Après la pluie, dans lequel tu as aussi écrit un texte. Et tu parles dans ton travail de lutte convergente. Du coup, je voulais savoir en fait comment est-ce que tu en es arrivée à associer écologie, féminisme, mais aussi ton travail de graphiste.
Alors, comment j'en suis arrivée à allier écologie et féminisme, je dirais, je ne sais pas trop, parce que l'engagement, en tout cas émotionnel, intellectuel, il était plutôt celui de l'écologie grâce à mes parents, donc depuis que je suis petite, surtout ma mère qui nous transmettait voilà, ce que ses parents à elle lui avaient transmis d'ailleurs, qu'il faut pas, voilà, faut faire attention globalement à l'écologie. Et puis après, vers mes 18 ans, j'ai découvert le féminisme, et là j'ai fait ok, waouh. Et après, j'ai découvert que oh, bah, j'étais blanche et j'étais mince et j'étais jeune et j'étais machin, j'étais ah en fait aussi j'ai des privilèges, donc ça veut dire il y a des autres trucs. Et un jour Jeanne Burgard-Goutal, donc ma collaboratrice sur Resistors, passe à Rennes faire une conférence parce qu'elle fait beaucoup de conférences voilà, et qui titrait féminisme et écologie même combat. Donc je me suis dit donc les deux trucs qui m'intéressent a priori. Ok, ça a des et donc je me suis dit attends, faut que j'aille voir ça. Et alors là, ça a été vraiment la lumière dans mon thé. Comme quand tu tâtes des trucs dans le noir, comme ça. Bon, je mime, évidemment, la radio, ça ne se voit pas. Je mime de toucher des objets sans voir ce que c'est. Et à un moment, quelqu'un allume la lumière et tu fais « Ah, bah oui, voilà, c'était un crayon, en fait. » Et bien, c'est un peu ce que ça m'a fait. Je me suis dit « Ah, d'accord. » Et là, ce que je me suis dit, c'est quand même... Ça fait 8 ans, à cette époque-là, que je traîne dans les milieux féministes, dans les milieux écolos. Je n'ai jamais entendu parler d'écoféminisme. D'accord. Le truc existe depuis les années 70. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliers de textes. Pourquoi personne n'en parle, en fait, alors que ça propose quand même des, je dirais pas forcément des solutions, mais en tout cas des bonnes pistes de réflexion sur beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui, quoi, qui commencent à être urgents. Donc, je me suis dit, peut-être il manquait des supports de diffusion plus larges, en fait. Surtout pour un mouvement qui, à la base, est né dans des pays, enfin, il est né un peu partout en même temps, mais... Il y a quand même une grosse tradition dans les pays dits des Suds, avec vraiment des actions de terrain et pas du tout, de prime abord, des penseuses qui ont fait l'université, qui écrivent, et ce qui est, c'est nécessaire, hein, c'est très bien aussi. Mais voilà, donc pour un mouvement qui se prétend être né de ça et qui du coup après se sclérose un peu dans un entre-soi universitaire, vraiment, je me disais, il y a un petit peu un contresens. Voilà. Et donc, dans mon travail, c'est pour finir sur la question.
Oui, vas-y.
En fait, comme ça, c'est des questions qui traversent toute ma vie en général, en tant que personne minorisée à des endroits, à d'autres endroits, ou pas minorisée d'ailleurs aussi à d'autres endroits, je comprends pas qu'on parle d'autre chose en fait. J'ai envie de dire, mais.
Et du coup, le fait d'être illustratrice, c'est ça qui t'a.
Oui.
Tu t'es dit, je peux apporter ma pierre.
Bah, c'est ça. Me dis, ok, c'est quoi, quel peut être mon rôle dans toutes les actions qui peuvent être entreprises, et il y en a beaucoup qui peuvent être entreprises. Je suis vraiment pas très douée à être active dans une association, j'ai des problèmes un peu de sociabilité, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, bon, ok, ça va être un peu compliqué. Bon, qu'est-ce que tu sais faire là maintenant tout de suite? Et je me suis dit, bah, tu fabriques des images. Des images qui sont appliquées, donc les arts appliqués, c'est des images qui sont appliquées à des tas de sujets. Donc bah, vas-y, choisis des sujets qui t'intéresseront et pour lesquels tu pourras faire, enfin, desquels tu pourras faire, pas forcément une promotion, mais en tout cas diffuser des, et porter des valeurs.
Mmh. Oui, c'était cohérent pour toi, du coup. Et du coup, pour parler du livre, ouais, du livre Resistors, que tu as co-écrit avec Jeanne Burgard-Goutal, dont tu viens de nous parler. Donc c'est un roman graphique, une fiction magique, c'est un peu une dystopie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le contexte de l'histoire?
Oui, alors effectivement, c'est une fiction qui se passe en 2030. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu plusieurs stades d'écriture et de conception de l'histoire. Donc après cette fameuse conférence où j'ai assisté à la conférence de Jeanne, je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai contactée pour lui demander si je pouvais en faire quelque chose. Et je m'attendais à ce qu'elle me dise soit bah oui ou soit bah non. Et en fait, elle m'a dit bah viens, on fait un truc ensemble. Riche idée. Et à partir de là, moi, je voyais tout de suite quelque chose de fictionnel et quelque chose avec plusieurs points de vue, pour des raisons évidentes. Pas voilà, ce truc du héros, machin. Je voulais vraiment plusieurs, une diversité de points de vue. Et au début, on était vraiment que sur des dialogues, des discussions. Genre, on fait en sorte que tous les personnages se regroupent à un endroit, de préférence avec une militante des années 70 qui va tout leur transmettre le truc. Mais en fait, après avoir, une fois qu'on a eu trouvé notre maison d'édition, elle nous a dit, cette éditrice, bon, peut-être il va falloir augmenter un peu la dose de fiction. Et donc, c'est là que... Et là, on était en plein confinement. Et donc, c'est là que Jeanne a repris complètement, donc en gardant à presque les mêmes personnages, enfin, les mêmes personnages en ajoutant quelques-uns, ces personnages qu'on avait construits ensemble. Là, elle me repropose ce scénario qui se passe donc en 2030, qui est un monde qui ressemble au nôtre, mais en pire, car je suis désolée de vous le dire, mais dans ce monde-là, il n'y a pas eu la révolution queer, romantique, écologique dont on rêve tous et tous. Mais peut-être ça arrive après, on ne sait pas. Je ne sais pas quelle est ce qui se passe après, à la fin du livre.
Pas de spoil.
Non, bah, c'est ça, mais moi, je ne peux pas spoiler, je ne sais pas qu'on l'a pas écrit. Voilà, donc ça se passe dans cet univers un peu dystopique, mais pas vraiment, qui ressemble beaucoup au nôtre. Et donc, c'est une diversité de personnages qui tentent de vivre leur vie chacun chacune. Donc, diversité à la fois de genre, d'origine supposée ou réelle, d'espèce même, puisqu'il y a un chat qui parle.
Oui.
à un moment même, il y a peut-être d'autres membres du vivant qui s'expriment.
Ok, moi je suis encore au chat qui parle.
Et voilà, chacun essaye de vivre sa vie. Et en fait, par une espèce d'enquête qui, elles, vont mener à partir de fragments de citations de textes écoféministes, des personnages, notamment féminins, vont se retrouver dans un espèce d'espace dont on ne sait pas trop s'il est parallèle ou réel ou imaginaire, qui s'appelle le Refuge et qui héberge les Resistors, qui est une communauté qui essaye de mettre en place des idéaux écoféministes dans ce lieu pour essayer de faire société autrement et de vivre dans ce monde difficile.
Voilà. Ok, et qu'est-ce qui était important pour vous d'aborder comme sujet aussi?
Bah, donc, l'idée, c'était donc, comme je disais tout à l'heure, c'était de transmettre, de diffuser les grandes idées de l'écoféminisme. Mmh. Évidemment, l'écoféminisme est un mouvement à tiroir hyper complexe puisqu'il propose lui-même la réunion de plusieurs mouvements. Mmh. Donc déjà, chaque mouvement en lui-même peut donner lieu à une diversité. Enfin, il y a des heures et des heures et des heures de podcasts, de livres, de tout ce qu'on voudra. Donc là, si on doit tout parler en même temps, je vous laisse imaginer que c'était un peu... voilà. Donc on s'est dit, ce qui est important, c'est de parler de l'histoire du mouvement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il est né dans les années 70-80. Ensuite, il a connu vraiment un creux de vague. 90-2000, c'était mort, il ne se passait rien. Enfin, peut-être il s'est passé des trucs, mais à l'échelle globale, voilà. Et après, depuis là, 5-8 ans peut-être, il se repasse des trucs. Mmh. Mais parce que je pense que contexte climatique et enjeux sociaux et visibilisation... enfin un peu du féminisme et des luttes connexes au féminisme. Donc je pense que c'est une réponse à ça, où des gens redécouvrent les textes et disent « Attendez, mais en fait, il y a des gens, ils ont déjà pensé à ça. » voilà, donc ça, l'histoire du mouvement. Aussi d'expliquer justement en quoi on peut faire des liens entre des sujets qui peuvent... pour certains ou certaines, paraître sans rapport. C'est pas forcément intuitif de dire que, bah, en fait, des poulets élevés en batterie, c'est la même forme d'oppression que, je sais pas, un policier qui assassine une personne noire dans la rue, ou que un mec qui tape sur sa femme. Enfin, on se dit, ok, c'est quoi le rapport, en fait, exactement? Et voilà, l'idée, c'est de dire que la domination patriarcale est la domination capitaliste, est la domination coloniale raciale, est la domination ainsi de suite, spéciste, par exemple. Et que si on ne règle que l'un des sujets, il ne fera que ressurgir à un autre endroit. Et donc, c'est comme un hydre à mille têtes, en fait. Si tu en coupes une à un endroit, c'est bien, mais... Ouais. Puis après, peut-être, elle repousse, en plus.
Généralement, il en repousse plus.
Voilà, en plus, il en repousse plus, donc...
Ouais. Et donc tout ça, moi pour le coup, Lauriane m'a présenté le livre en début de semaine, puisqu'on savait que tu venais. Moi je l'ai acheté tout de suite parce que rien que ta présentation, Lauriane, me donnait envie d'en savoir plus. J'ai commencé, alors je pourrais dire je l'ai dévoré, mais j'ai dû me réfréner hier soir. Et pour les auditeurs qui écoutent, auditoristes qui écoutent, c'est un bon outil, je trouve, parce que moi par exemple, l'écoféminisme, Lauriane m'en parle. Et, mais là je trouve qu'il y a plein de. Enfin, c'est très abordable en fait. C'est un truc très.
Cool, c'est un peu l'idée.
Pour moi, gay cis, tu vois, enfin bon, et ben je suis genre, mais oui, je suis d'accord. Donc ça pourra être pour vous, chers auditeuristes, l'occasion de découvrir aussi, et de c'est pas uniquement juste aux concernés, enfin tu vois, c'est pas juste un livre qui a été fait par des gens qui s'y connaissent et qui se parlent entre eux. Au contraire, il y a vraiment une accroche, en tout cas, je trouve, un moyen pour tout le monde, tous et toutes, de le découvrir. Je me tourne vers Mado.
Coucou.
Puisqu'on va parler de la nature avec toi un petit peu.
Bah oui, je me suis dit que comme on parlait de nature, j'allais vous faire un petit sujet spécial. Et comme c'est le mois de février, sur toutes les devantures, vous allez bientôt lire « Dites-le avec des fleurs !» Et comme on le sait, les fleurs ont un langage, en particulier celui de l'amour. Et pour dire l'amour queer, la violette, la lavande et autres petites fleurs mauves ont eu particulièrement du succès au fil des siècles. La violette est peut-être le plus ancien des symboles lesbiens. En effet, c'est Sappho, poétesse de la Grèce antique, qui vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui en, sur l'île de Lesbos, de ses textes, qui en parsème la première ses poèmes. Parce que leurs supports ont été abîmés par le temps, mais néanmoins, on y trouve des violettes, mais aussi des crocus et des jacinthes. Les jacinthes, d'ailleurs, tiennent leur nom d'un personnage mythologique, Hyacinthe, un homme dont les dieux Apollon et Zéphyr étaient amoureux. Les femmes dont parle Sappho dans ses poèmes portent les violettes comme des ornements, en tissent des guirlandes et des diadèmes. Voici un extrait traduit en 2005 par Yves Battistini d'un poème qui parle d'adieu entre l'écrivaine et une amante. Mais moi, sinon, je veux te rappeler aussi les beaux jours du passé, les couronnes souvent de violettes et de roses ensemble, de crocus dont tu ornais ton front près de moi, et les guirlandes odorantes et les fleurs entrelacées que tu jetais autour de ta gorge fragile, toute l'huile parfumée, l'onguent précieux dont tu te frottais le corps comme une reine. Et sur les lits moelleux, dans mes bras tendrement, tu chassais hors de toi ton désir altéré. Au saint rite, jamais, nous ne faisions défaut. Nous n'étions pas absentes pour le bosquet sacré et la danse et le bruit. Ces images de femmes ornées de guirlandes, de couronnes ou de colliers de violettes, d'amoureuses à fleurs, traversent le temps. Début 20e, à Paris, Sappho devient de nouveau une référence et un modèle pour la communauté lesbienne, et la violette redevient leur accessoire et leur symbole. Dans cette communauté surnommée Paris Lesbos, on trouve une autre poétesse, Renée Vivien, qui portait en broche des bouquets de violettes, en partie en référence à Sappho, mais aussi pour son premier amour, appelé Violette Chilito. On retrouve aussi cette fleur dans ses poèmes, et elle était l'amie de l'écrivaine Colette, qui expliquera que, lorsque Vivien lui offrait l'un de ses livres, elle le cachait en général sous un bouquet de violettes ou un panier de fruits. Et ce n'était pas la fin de l'aventure parisienne de la violette. En 1926, la pièce de théâtre La Prisonnière d'Édouard Bourdet, en anglais The Captive, ouvre sur les planches parisiennes et new-yorkaises. L'histoire est celle d'Irène, une jeune femme faussement fiancée à un homme, mais ayant une vraie relation amoureuse avec une femme. Durant la pièce, son amoureuse n'arrive jamais sur scène, mais est représentée par les bouquets de violettes qu'elle offre à Irène, même lors de leur séparation au dernier acte. On les retrouve aussi sur la couverture du livre, contrastant avec un fond jaune et vert. En signe de soutien, de reconnaissance ou d'appartenance, les spectatrices parisiennes se mirent à porter les violettes en broche, au spectacle et en dehors. Officiellement, ce phénomène n'aurait pas du tout atteint la production new-yorkaise, non, non, non. Mais la pièce ferma là-bas en 1927 après des plaintes. Et pourtant, la fleur a bien été associée au lesbianisme dans l'esprit des Américains, car dans les années qui suivirent, les ventes de violettes chutèrent drastiquement aux États-Unis, et on peut lire en 1934 dans Harper's Bazaar que dans les champs de fleurs, on maudit encore cette pièce d'avoir sonné le glas de l'industrie de la violette.
Pauvre lesbienne.
La couleur violette et sa déclinaison lavande parcourent également l'histoire queer. Oscar Wilde parle des nuits violettes que l'on peut arracher à cette chose grise et lente qu'on appelle le temps, nuits passées avec des garçons de joie. Oscar Wilde, d'ailleurs, était aussi connu pour ses costumes couleur lavande et les œillets verts qu'il portait à la boutonnière, un autre symbole floral d'appartenance queer. En 1930, un biographe d'Abraham Lincoln accuse le président d'avoir eu des périodes lavande, en anglais lavender streaks, donc des traînées de lavande aussi, on peut dire. Et cela devient un euphémisme répandu aux États-Unis. Puis, sous McCarthy et Eisenhower, on tente de chasser les personnes homosexuelles du gouvernement avec une vraie chasse aux sorcières organisée contre ce que les historiens appelleront « the lavender scare ». Plus de 5000 employés fédéraux perdirent ainsi leur travail à cause de leur sexualité réelle ou présumée. Alors évidemment, dans la plus ancienne et la plus belle tradition queer, qu'a-t-on fait de ce lavande ? On se l'est réapproprié.
Et oui.
En 1969, la journaliste Betty Friedan bannit les lesbiennes du second congrès féministe de la National Organization for Women, disant que cette menace lavande nuirait au mouvement des femmes. Mmh. Au congrès arrivèrent donc un groupe de militantes lesbiennes nommées The Lavender Menace, toutes vêtues de t-shirts de couleur lavande et personnalisées à la main, et elles eurent gain de cause.
Yes.
Yes.
La même année, un mois après les émeutes de Stonewall, lors d'une manifestation commémorant les événements, des centaines de brassards et d'écharpes lavandes furent distribués à la foule. À la Pride de Boston en 1974, un énorme rhinocéros en papier mâché couleur lavande ouvrait la marche sur un char. Ses créateurs disent avoir choisi pour symbole un animal incompris, souvent faussement accusé de violence, et une couleur à la rencontre du féminin et du masculin. En 2017, Gilbert Baker retravaille le design du Rainbow Flag en y ajoutant une bande lavande, et il dit « Nous avons besoin d'un symbole de diversité sous l'ère Trump ». Vous le comprendrez, ces fleurs et cette couleur sont partout dans notre histoire. Il y aurait encore beaucoup à en dire, d'autres poèmes, d'autres symboles. Mais pour le moment, je terminerai avec une chanson, The Lavender Song. En allemand, je crois qu'on dit Das Lila Lied. J'ai fait espagnol LB2. un hymne de fierté né dans le Berlin des années 20. J'ai pas eu le temps de tout vous traduire, mais sachez que les paroles finissent par « Nous allons gagner notre droit à des jours et des nuits lavandes ».
Makes them think they have the right to say what God considers vice. What makes them think they have the right to keep us out of paradise? They make our lives hell here on earth, poisoning us with guilt and shame. If we resist, prison awaits, so our love does not speak its name. The crime is when love must hide. From now on we'll love with pride. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell will take the chance. They are so straight, uptight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure. Can see is sheer banality. Lavender nights are our greatest treasure, where we can be just who we want to be. Round us all up, send us away. That's what you'd really like to do. But we are too strong, proud, unafraid. In fact, we almost pity you. You act from fear, why should that be? What is it that you are frightened of? The way that we dress, the way that we meet, the fact that you cannot destroy our love. We're going to win our rights to lavender days and nights. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell will take the chance. They're all so straight, uptight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure. All they can see is sheer banality. Lavender nights, our greatest treasure, where we can be just who we want to be. Lavender nights.
The Lavender Song par Ute Lamper sur Radio Syllab. Il est 19h39. Vous écoutez Queer Me Out et Aurora, la co-autrice et illustratrice du roman graphique Resisters, paru aux éditions Tana, et notre invitée. Mado, est-ce que tu as des infos à nous donner en plus sur ta chronique?
Oui, je voulais juste un peu citer les sources dont je m'étais servie. Donc, il y a le site de CNN, le New York Botanical Garden et surtout dressingdykes.com, aussi sur les réseaux Dressing Dykes. C'est les recherches de Eleanor Medhurst, qui est historienne de la mode et surtout de la mode lesbienne, et c'est ultra riche. Si vous voulez la suivre sur les réseaux, c'est une jeune femme adorable, toute de rose vêtue. Vous allez vite la reconnaître, et vraiment c'est super pointu et très intéressant.
On partagera du coup dans les stories les liens.
Ouais.
Et Lauriane, tu avais une question pour Aura.
Oui, du coup, pour revenir au livre Resisters, moi je voulais m'attarder sur un personnage qui arrive au début du livre, qui est Naël. Donc c'est un petit bébé dont les parents essaye de ne pas genrer, du coup un petit bébé queer, et aussi plus loin dans le roman par les personnes intersexes. Et en fait, je me demandais si vous vouliez poser un cadre un peu queer dès le début du livre. Est-ce que c'était important pour vous?
Oui, moi j'imaginais pas du tout faire cette histoire. Déjà tout à l'heure, on voulait une diversité de personnages pour des raisons évidentes, mais qui sont peut-être pas évidentes pour tout le monde. Donc pour des questions notamment de représentativité, il nous semblait indispensable d'écrire ça. Et donc, qui dit représentativité dit pourquoi ne mettre que des personnes dont on connaît le genre, le sexe, enfin, bien sûr, ça fait partie. Pour moi, les luttes queer sont des luttes féministes, sont des luttes antisexistes, en fait. Juliette Drouard le dit très bien, le femme n'est pas le sujet majeur du féminisme. Donc, je partage complètement son opinion. Et donc, voilà, il nous semblait... on s'est dit, ok, ce serait bien qu'on ait un couple à la fois hétéro pour peut-être donner quand même un peu de point d'accroche pour un public large, on va dire. Merci. Mais on va les faire avoir un cheminement, on va dire, dans le féminisme, de telle façon à ce qu'ils ont déjà réfléchi à ces questions-là et que peut-être leur bébé, ils ont envie de lui transmettre autre chose. Donc oui, c'était très important pour nous. Vraiment, dès le début, on avait pensé à ça et on a tenu à garder le cap jusqu'au bout de ça. Ouais.
Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, justement, c'est que y a un lien en fait avec l'écologie queer finalement, et c'est pas un livre qui traite essentiellement que d'écoféminisme. En fait, j'ai trouvé un peu cette ouverture que je retrouve pas forcément ailleurs dans l'écoféminisme. C'est vraiment un courant de l'écoféminisme dont le livre aborde un peu sur le thème de la spiritualité, mais qui est pas... la spiritualité, il y en a plein, il y en a partout. Mais vraiment cette spiritualité, c'est dur à dire, New Age, qu'on retrouve souvent dans l'écoféminisme, où c'est des... comme j'en parlais dans d'autres chroniques, on peut traiter de sujets qui sont un peu sensibles, comme sur la vraie nature des femmes, entre guillemets, des choses comme ça. Des gros.
Oui, il y a des gros guillemets.
C'est ça, et en fait, est-ce que c'était aussi un moyen de sécuriser...
Oui, en fait, déjà le fait que ce soit une fiction permet beaucoup de choses, je trouve, en tant que... Moi, je n'ai jamais écrit de texte d'essai ou de choses comme ça, et j'admire beaucoup les gens qui le font et j'en lis beaucoup. Cela dit, j'ai vraiment l'impression que c'est plus fun. Enfin, pour moi, ce qui me paraît le plus facile et le plus intéressant, c'est vraiment d'écrire de la fiction. Et de fait, par exemple, ce fameux lieu dont je parlais tout à l'heure, le refuge, on ne sait pas s'il est réel ou fictif, est-ce qu'il est magique, est-ce que du coup il est né de rituels, mais on ne sait pas. Et au final, on s'en fiche un peu, c'est-à-dire la fiction, c'est ça, c'est l'art de dire des mensonges pour dire la vérité, au fond. Pour parler de vrais sujets qui nous touchent toutes et tous, pour toucher à l'universel, si tant est que ça existe. Ça n'existe pas.
Spoiler alert.
Non, mais voilà, en tout cas, en essayant de partir de son expérience humaine et qu'on traverse toutes et tous des phases de joie, de tristesse, voilà. Et en ça, je pense que là, si universalité il doit y avoir, il peut y avoir peut-être à cet endroit-là. Mais donc, la fiction était un bon moyen à la fois de parler de rituels magiques sans dire on y croit pas, on est pour, on est contre, et le féminin sacré quand même c'est super.
Voilà ce qu'on cherche à éviter.
Vraiment, moi c'est pas... Il y a des courants de l'écoféminisme qui l'assument et qui trouvent ça super, et bah tant mieux pour elle, mais tant pis pour beaucoup d'autres gens, parce que c'est quand même des un système de pensée qui est quand même très binaire et quand même et bah voilà, on va pas redire c'est quoi les dangers de la binarité, je veux dire on est tous et tout en plein dedans. On
peut non, si tu peux, okay. C'est toujours bon de
et bah rappeler. Et bah par exemple dernièrement comme vous le savez suite à ce qui s'est passé aux États-Unis pour le droit à l'avortement qui est mis en danger. Enfin bon, ouais. Vous savez que le droit de l'avortement, pour l'avortement est mis en danger aux États-Unis. Et donc, suite à ça, il y a eu en France des mouvements qui ont souhaité que le droit à l'avortement soit constitutionnalisé en France. Au cas où, si la droite arrive au pouvoir et nous coupe l'herbe sous le pied et nous enlève ce droit-là, et ben en fait, ce serait rendu beaucoup plus difficile parce qu'il aurait été constitutionnalisé. Bon, et bien là, il y a des... féministes, puisqu'elles s'auto-intitulent comme ça, qui ont été consultées et qui, par exemple, ont refusé que, enfin, ont proposé que les hommes trans soient exclus du projet.
Sympa.
Vraiment, quel drôle, c'est bizarre, enfin, fallait y penser, quoi. Et voilà, donc on a beau dire, oui, c'est des luttes intestines, c'est du détail, c'est machin. Non, je ne crois vraiment pas. Voilà, et ça, c'est dû à cette histoire de binarité dont on n'arrive pas à se sortir quand bien même on se revendique soi-disant féministe et soi-disant dans la lignée de Simone de Beauvoir et tout ça, qui a quand même fait un énorme travail sur la question et qui, voilà, et dont le nom est ressorti récemment suite à des polémiques à ce sujet. On ne naît pas femme, on le devient, voilà, point barre, le genre n'est pas quelque chose d'acquis à la naissance. Et je sais plus pourquoi j'avais.
C'était une évidence en tout cas. Et non, c'est voilà. Pour ça. C'est ça l'évident pour nous autour de la table. Et moi j'aime bien en général rappeler ce genre d'évidence parce que c'est le but de l'émission quand même que tout le monde. Enfin, je sais pas, ce message c'est bien qu'il soit rappelé.
Oui, non,
que voilà, quel serait là. En plus, tu nous as donné un exemple précis de en quoi.
Oui, en quoi ça peut être dangereux.
Peut être problématique en fait. Donc merci. Et donc, question quand même que nous posons à tous nos invités. Nous n'attendons pas une réponse d'expert, mais pour toi, c'est quoi le queer ?
Pour moi, c'est quoi le queer ? Je pense, ça tombe bien justement qu'on parlait de la binarité juste avant, parce que comme ça, on va pouvoir boucler. C'est bien fait. Je pense que le queer, c'est tout ce qui sort de ce schéma binaire hétérosexuel, hétéropatriarcal, hétéronormatif. Je crois que c'est Paul B. Preciado que j'entendais dire l'autre jour qu'il parlait d'identité dissidente. Et je pense que c'est exactement ça. C'est tout ce qui n'est pas hétérosexuel, mais au sens système politique, au sens de régime, du régime politique hétérosexuel. Je pense que tout ce qui n'est pas là-dedans et queer. Enfin, pour moi, c'est la définition que j'aurais envie de donner. Après, peut-être je changerai d'avis dans 6 mois et je serais ravie de changer d'avis si jamais je me
cours. C'est une photo, c'est ça, c'est une capsule de maintenant.
Pour l'instant, voilà.
Très bien, merci Aurora.
Merci Aurora.
Et
merci
je me tourne vers Félix qui ressort son masculinomètre. Et qu'est-ce que tu vas évaluer avec le masculinomètre, Félix ?
Aujourd'hui, je voulais vous parler du marteau. Et j'aimerais prendre le temps de vous expliquer pourquoi. Donc si vous le permettez, je vais me dépêcher de faire ma petite évaluation Yuka pour y arriver rapidement. Vous commencez à me connaître. Pour évaluer le marteau, j'ai cherché sur internet symbolique virilité marteau. Alors, cette fois d'ailleurs, c'est le genre de cascade que vous pouvez reproduire chez vous, n'hésitez pas. Après, je pense que vous me ferez confiance, je connais très peu de gens qui remettent en cause la parole des hommes. Ma petite recherche et je tombe sur cette explication hyper stylée. Le maillet est le symbole du travail, de la force matérielle, de la compétence et de l'intelligence qui agit, persévère et dirige la pensée. Ouais, apparemment, c'est un symbole franc-maçon. Bon, c'était stylé, mais c'était pas le maillot, c'était le marteau que je voulais. C'était pas le maillet, pardon. Donc je défile un petit peu, et là, ce que je lis me glace le sang. Le marteau est à la fois un outil et une arme. Il symbolise la destruction. La destruction, c'est vraiment pas terrible. Hein. Et puis sur d'autres sites, on parle de tort et du pouvoir. Et bah pareil, le pouvoir, c'est pas terrible, surtout entre les mains des hommes, de les hommes. Donc voilà, eux sur le masculinomètre, on doit être à une minute impeccable. Donc à votre avis, maintenant, pourquoi est-ce que je voulais vous parler du marteau ?
Je sais pas.
Faire du bricolage.
Un petit peu, oui. Oh oui. Bah, pour raconter ma vie. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu dire que le genre c'était le genre c'était une performance. C'est une idée de Judith Butler dont Emilien parlait la dernière fois. Moi ma vie est une performance genrée, comme toute personne genrée sans doute, mais j'ai l'impression que je le vis de façon exacerbée. En fait j'ai envie de performer la meilleure version possible de l'homme, tout en respectant les codes du genre. Oui.
Yes.
Donc, heureusement, avec un peu de thérapie, je peux dire j'avais, hein, parce que voilà, j'ai réussi à prendre de la distance par rapport à ça. Mais ça reste un loisir que j'affectionne beaucoup.
Ça n'est plus un passe-temps, c'est une passion.
C'est une passion. J'ai vu qui date depuis l'âge de, je crois, de 5-6 ans. Parce que je voyais mon père.
Bref, bref. Je vais pas vous refaire tout le parcours avec ma psy, mais l'autre jour, je me dis, tiens, est-ce qu'on s'attaquerait pas au bricolage? Alors le bricolage, vous le savez, hein, c'est une de ces tâches à la frontière du loisir, selon l'INSEE, qui réduisent légèrement le déséquilibre entre les hommes et les femmes en matière de travail domestique. On peut lire sur le site de l'INSEE que le jardinage, le bricolage, la chasse, la pêche et les soins aux animaux domestiques sont productifs. Mais ce sont souvent également des loisirs qu'on réalise pour eux-mêmes et non pour leurs produits. On ne peut pas donc les déléguer sans en perdre tout l'intérêt. De plus, étant donné leur caractère potentiellement récréatif, le temps que l'on y consacre peut être supérieur à celui qu'on y consacrerait si on était professionnel. Donc, on prendra le temps de revenir sur tout ça, de sortir des chiffres dans un épisode crossover avec Lauriane, j'espère. Mais moi aujourd'hui, je tenais principalement à vous raconter ma vie. Encore plus que ce qu'on a fait là, oui. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis vraiment au niveau zéro du bricolage, mais je fais assez bien semblant. Je sais suivre des instructions bien dessinées et dire marteau en suédois, en gros. Mais l'autre
comment
jour... Ah, hamare. Mais l'autre jour, je me suis décidé à fabriquer un nichoir à rouge-gorge. De mes mains. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ni une ni deux, je regarde un tuto. Je fais ma liste de courses et je pars chez eux, oui. Alors beaucoup de choses à redire sur cette pub, hein, déjà visuellement. Le mec a une chemise de bûcheron un peu plus classique. Et auditivement, vous avez entendu cette voix. Mais on va se contenter d'un petit retour sur ma démarche. Rétrospectivement, au lieu de le tuto, la liste de courses, arriver tel un bonhomme, voilà ce que j'aurais dû faire. Entrer, chercher un monsieur en rouge, désolé, et dire « Bonjour, j'aimerais me lancer dans le bricolage, mais j'ai aucune base. Je pensais commencer avec un petit nichoir à oiseaux, rouge-gorge, ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des conseils, des recommandations, de ressources, d'outils, de matériaux ?» C'est sympa comme introduction parce qu'en fait, tu montres de l'intérêt pour l'activité de la personne et tu valorises son expertise en même temps. Et je sais que ça peut produire son petit effet, puisque quelques minutes avant, je faisais exactement la même chose dans une boutique de tricot, et la madame était transportée. Alors pourquoi j'ai eu besoin de faire le mec?
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
Ouais, ouais, je pense que je suis juste pas tout à fait guéri, en fait. Mais le fait qu'on puisse faire des choses aussi mimes qu'un nichoir à rouge-gorge avec un marteau, ça mérite bien une petite remontée sur le masculinomètre.
Oui.
Alors vous, c'était quand la dernière fois que vous avez utilisé un marteau?
Tu ne veux pas savoir.
Wesh sauvage, tu fais quoi là en fait? C'est interdit?
Hémoglobine de toutes mes copines, comme pas dit oui un jour à un débile. Hémoglobine de toutes mes copines, pourquoi tu penses qu'on colle des affiches? Si serre à l'écoute, mettre le crop top. Coup de cross boy dans les couilles. Si serre à l'écoute, mettre le crop top. Mal dominant, pour qui tu te prends? Lundi au dimanche, vas-y redescends. Le front dedans, pas concluant. Vraiment pas content, donc tombe dans la tente. Insoumise, pourquoi faire? Pour être libre, pour faire taire la violence du système, je l'espère. Que s'ouvrir à la nouvelle ère. Insoumise, pourquoi faire? Pour la vie, pour la paix, pas la haine. Pas la guerre comme un frère. Je te vois quand tu me respectes. Toutes mes copines, qu'on pas dit oui un jour à un débile. Hémoglobine de toutes mes copines, pourquoi tu penses qu'on colle des affiches? Tu fais le caïd, tu fais le malin. Tu veux le coït, tu veux le galant. Ah, tu décides, ah, tu obtiens. Viens par ici, je te fais le dessin. Sorcière. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cris ni moindre bain de sang. Comment est-on encore bloqué dans le monde d'avant? L'égalité avec toi, mon ami, mon amant. Non, c'est non, c'est non, c'est non. Quand on dit non, non.
Voilà, c'était Aloïs Sauvage sur Radio Syllabe. Il est 19h54, vous écoutez Queer Me Out. Nous sommes toujours en compagnie d'Aurora, co-autrice et illustratrice du roman graphique Resistors aux éditions Tana. Et justement, Aurora, moi je voulais savoir un peu maintenant, c'est quoi la vie d'un roman graphique une fois qu'il est terminé? Donc là, tu en parles à la radio, l'objectif c'est que les gens le lisent, avec un peu de bol, qu'ils comprennent deux, trois notions d'écoféminisme.
On est voilà. Sage.
Si vous voulez aider Félix à monter des mon histoire à oiseaux, peut-être ça peut être l'occasion après avoir lu ce livre. Mais du coup, comment est-ce que toi, en tant qu'illustratrice et co-autrice du livre, tu le fais vivre? Est-ce que tu fais des dédicaces, des conférences?
Oui, alors toute cette année avec Jeanne, on a été invité à un certain nombre d'événements, que ce soit des rencontres en librairie. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça en tant que lectrice, aller voir les autoristes que j'aime quand ils passent dans ma ville. Des tables rondes autour de sujets, soit de la BD en elle-même, comment est-ce qu'elle sert les enjeux sociaux. Ça, par exemple, je fais ça la semaine prochaine à Rennes 2, ici même. Ou alors sur comment la fiction peut apporter des horizons politiques différents, riches. Plusieurs événements qui...
Et ça, on peut te contacter directement via tes réseaux sociaux ou t'as quelqu'un, un attaché de presse?
Non, alors si, il y a une attachée de presse, mais c'est vrai que là, on n'est plus trop contacté par ce biais-là parce que le livre commence à avoir quand même un an et deux, trois mois, donc il n'est plus dans les actualités. Mais moi, je suis toujours partante pour venir en parler, donc ça peut être un DM Instagram, ça peut être un mail trouvable sur mon site internet.
Parfait. Donc nous, on lance l'appel quand même aux librairies rennaises, hein, on a dit, pour ne pas les nommer, Le Fayard, Pécari, Planetio. J'ai oublié
La Nuit des Temps,
voilà. Ça. Donc parce que rencontrer nos auteurs, rencontrer nos auteurs et illustratrices quand même rennais, c'est plutôt bien, je trouve. Enfin, c'est chouette. Enfin, moi, j'étais contente de découvrir. Mais elle est de Rennes, en fait. Donc trop cool.
Mais moi, je serais ravie.
Parfait. On lance l'annonce. On va mettre notre petit son pour le jeu. Puisque si vous écoutez Queer Me Out en direct, là tout de suite maintenant, il est 19h56, vous nous répondez en DM sur Instagram, @queer_meout, à la question suivante. Quelles étaient les deux fleurs dont Mado nous a parlé dans sa chronique? La première personne qui nous répond correctement remportera un dessin dédicacé par Aurora, parce que voilà, on se fout pas de votre gueule sur Queer Me Out. C'est l'heure de passer à notre agenda queer, Mado.
Eh bien, il y a la chorale queer et féministe les lundis soirs au Bocal, un collectif autogéré, deux allées de Finlande au métro Le Blône à Rennes.
Super.
Ensuite, ce vendredi 3 février à Nantes, au bistrot La Plaisir est organisé un show qui s'appelle West Pride Story avec des drag kings et queer de Rennes et un DJ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc, il y aura Aaron Azur, Soleil, Crève-Cœur et Edmond Séan.
Trop bien. Lauriane.
Ensuite, il y a un café féministe par l'association Parents et Féministes le 4 février de 10h à midi au Jeu de Paume. Et dimanche, le dimanche queer militant le 5 février, qui est une causerie sur les retraites, la précarité et les personnes minorisées. Il y aura aussi une tombola, un DJ set au bar La Gasoline, et c'est organisé par la Frappe de Rennes de 15h à minuit à prix libre.
Cœur sur eux. Permanence de Rennes antisexiste sur le partage de la charge contraceptive le dimanche 5 février de 14h à 18h au 22 rue de Brest.
Et le vendredi 10 au Padam de Liffré, une soirée musical quiz animée par Darling Millie.
On l'aime bien, elle. Brunch tardif Soleil et Mimosa Mado le 12 février à Rennes.
Oui, ce sera au Marquis de Sade. Il y a plein de dragues de Rennes qui participent. Et donc il y a des conférences puis un drag show. Et cette fois, le thème, c'est le BDSM et le kink. Voilà, donc, et c'est organisé par Soleil.
Pour un public averti.
Pour public averti, évidemment.
Évidemment. Si vous l'amenez vos enfants, enfin bon.
Non.
Et donc, il y a.
Vous avez soit que le show, soit brunch plus show, vous pouvez manger. C'est des prix différents. Et sur les réseaux de Soleil, vous allez
trop
trouver
bien,
ça.
Et on essaiera de vous mettre tout ça dans les stories de Broadway.
De Queerly Out.
Le lapsus. Merci Aurora d'avoir assisté à notre émission et d'avoir été notre invitée.
Merci à vous tous.
Tu reviens quand tu veux, si tu veux chroniquer avec Lauriane, faire du... Voilà, n'hésitez surtout pas. On rappelle Resistors aux éditions Tana, disponibles dans toutes les librairies. Moi, je l'ai trouvé chez Le Fayard hier, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. On te rappelle le réseau, c'est @aurorechapon sur Instagram.
Aurore.chapon.
Aurore.chapon sur Instagram. Vous pouvez écouter cette émission et toutes les précédentes sur Spotify, tous les réseaux de podcast, Apple, etc. On remercie Kevin à la régie.
Merci Kevin.
Et on se donne rendez-vous pour notre prochaine émission le jeudi 16 février qui sera une carte blanche musicale pour découvrir les goûts musicaux éclectiques de notre équipe. Prenez soin de vous et surtout soyez bienveillants. Bisous.
Merci.
Queer Me Out, un jeudi sur deux sur Radio Syllab.
Parce qu'on a préparé l'émission quoi, lundi ou mardi, je crois.
Mathieu a acheté un livre écoféministe, ça je...
Bah ouais, mais bah, dis donc, tu le dis comme ça c'était...
Mais non, mais ça, quelqu'un d'ici a acheté un livre écolo, tu vois.
Ouais, cet homme blanc,
non,
cis.
Pas du
tout. Comment ça, quelqu'un ici a acheté un livre écolo?
Okay,
et donc, comment Lauriane a été direct, tu sais, genre, offensante pour tout le monde?
Non, je voulais pas. C'est genre non, mais le message est passé.
Non, par contre, t'as fait une bonne, tu fais une bonne pub, en fait.
Il faut.
Mais parce que le livre est bon, en fait. Hein. Donc, c'est ça, pas de mauvaise surprise.